Il était une fois un éléphant qui se trouvait dans une pièce. Et dans cette pièce entrent trois personnes de trois portes différentes. Et ces trois personnes ont un truc en commun, c'est qu'ils sont tous aveugles, les trois d'entre eux. Et il y a un aveugle qui commence et qui rentre dans la pièce, et puis qui arrive, qui tombe sur l'éléphant à tâtons, et puis qui touche sa trompe, et il dit, c'est un tuyau. Et tu as un autre aveugle qui rentre d'une porte différente, qui arrive sur un autre endroit et qui touche le flanc de l'éléphant. Et il va dire, c'est pas du tout un tuyau, c'est un mur. C'est évident, c'est un mur. Et tu en as un troisième qui arrive par derrière et qui va vers l'arrière de l'éléphant, qui trouve sa queue et qui dit, mais c'est pas un mur, c'est une corde, c'est évident. C'est une histoire que mon prof de philo m'a racontée quand j'étais en terminale. Et ce qu'il essayait de me dire, et qu'il essayait de dire à toute la classe, c'est que, en fait, il y a plein de façons différentes de voir Dieu, il y a plein de religions différentes qui sont toutes valables et qui sont toutes bonnes et qui ont toutes une part de vérité sur Dieu. L'analogie est bonne jusqu'à un certain point. L'analogie est bonne dans le sens où il y a des aveugles. Je confesse, je suis aveugle. Je confesse que de moi-même, je ne peux pas connaître Dieu, mais il y a un bug dans cette histoire. C'est que dans la vraie vie, l'éléphant parle. Et tu as un aveugle qui arrive vers lui et qui dit, c'est un tuyau. Et l'éléphant, il est là, il dit, non, 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 je suis un éléphant, en fait. Et tu en as un deuxième aveugle qui vient et qui dit, non, c'est un mur. Et l'éléphant, il dit, je suis toujours un éléphant. Et t'en as un autre qui arrive et puis qui dit, mais non, c'est une corde. Et l'éléphant, il dit, non, 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 je suis toujours un éléphant, écoutez-moi. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Dieu a parlé? Parce que bien sûr que de moi-même, je ne peux pas le connaître. Évidemment, je suis un être humain. Je réfléchis avec mes yeux. Dieu est esprit. Il est transcendant, il est au-dessus de toute chose. Je ne peux pas le comprendre avec mon petit cerveau. J'essaye de le rationaliser. Et bien sûr que si j'essaye de rationaliser Dieu, je ne vais pas réussir à le connaître. Mais la question, c'est est-ce que Dieu parle, en fait? Et s'il parle, quel langage est-ce qu'il parle? Et je vais commencer en lisant Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Ah, donc il s'avère que Dieu a un langage. Il s'avère que Dieu ne parle ni anglais, ni français, ni tchétchène. Dieu parle Fils. Le Dieu de l'univers, l'éléphant dans la pièce, a un langage et il parle fils. Le passage continue en disant, le fils est le reflet de sa gloire. Le fils est l'expression de sa personne. Le fils est le reflet de la gloire de Dieu. Lorsqu'on regarde le fils, on regarde le Père. Celui qui a vu le fils a vu le Père. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Si vous voulez savoir quoi que ce soit sur Dieu, regardez à Jésus. Si vous voulez connaître Dieu, n'écoutez pas un prophète. Regardez le Fils, qui est le reflet exact de la gloire de Dieu. Quelle puissance! Quelle puissance que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, mais qu'il a décidé de venir lui-même en chair. Le Fils est le reflet exact de la gloire de Dieu. Et donc la prochaine question qu'on pose, c'est comment est-ce qu'on sait qui est Jésus? Comment est-ce qu'on sait comment est ce Jésus? Il a existé, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Ben aujourd'hui, moi, je ne le vois plus. Comment est-ce que je sais qui est Jésus? Ben Jésus nous donne la réponse lui-même. Jésus nous donne la réponse lui-même. Après sa résurrection, Jésus se retrouve sur une route avec deux disciples. On a le passage dans Luc 24. Et les disciples sont là et ils se disent, mais c'est incroyable tout ce qui s'est passé dans ces jours à Jérusalem, de Jésus qui est mort, et certains disent qu'il est ressuscité. Et Jésus se retrouve à côté d'eux, un peu comme par miracle, et il leur dit, mais et vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas que le Fils devait mourir et devait ressusciter et que c'est comme ça que ça allait se passer. Et ils disent, non, enfin, on ne le savait pas, comment est-ce qu'on pouvait le savoir? Et Jésus, il ouvre la Bible avec eux, il ouvre l'Ancien Testament avec eux. Et on se dit parfois que l'Ancien Testament, c'est les histoires qui ne concernent pas Jésus, parce que Jésus n'est pas encore venu. Mais ce que nous dit ce passage, c'est que Luc 24, puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. L'Ancien Testament est une histoire qui parle de Jésus. Farid a parlé ce matin de Abraham, de son fils, du buisson, du bélier. Et j'avais juste le sentiment, et je vais revenir sur beaucoup des paroles prophétiques qui ont été partagées, parce que je crois qu'il faut qu'on réponde à ces paroles prophétiques, mais je sentais quand Farid a dit « Et Abraham entendit un frétillement dans le buisson ». Je sentis l'Esprit de Dieu remuer en moi, et je pense qu'il faut qu'on se pose la question ce matin. Est-ce que vous entendez le frétillement dans le buisson? Est-ce que vous l'entendez, ce frétillement? Peut-être pour la première fois, de vous dire, ouais, j'ai pas de solution pour ma vie, mais il y a un frétillement dans le buisson. Il y a un bélier qui est là. Il est sans tâche. Il a pris ma peine pour moi. Il a été celui que Dieu a pourvu sur la montagne pour moi. Il est le vrai sens de l'histoire d'Abraham. Il est le vrai sens de l'histoire de Moïse. Il est le vrai sens de l'histoire de David. Il est l'accomplissement de tous les prophètes qui sont venus, en commençant par Moïse et en allant dans tous les prophètes. L'Ancien Testament concerne Jésus. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est des récits de l'histoire de Jésus écrits par des témoins oculaires pour Matthieu, pour Marc et pour Jean. Et Luc était un historien qui écrit avec une précision historique aussi grande, voire meilleure, que tous les grands historiens de la Rome antique. Il est allé se documenter à Jérusalem auprès de témoins oculaires et il a écrit aussi tout ce qui concernait Jésus. Et toutes les lettres ensuite derrière, c'est des lettres écrites par des gens qui soit eux-mêmes ont vu Jésus ou eux aussi ont entendu de la part de témoins oculaires ce que Jésus a dit, ce que Jésus a enseigné et ils l'ont appliqué à l'Église pour dire aujourd'hui comment est-ce qu'on vit à cause de l'événement Jésus. Si vous voulez connaître Dieu, il parle Fils. Si vous voulez connaître Fils, lisez ce livre. Lisez ce livre. Et c'est un message super simple et même super basique. Il y a beaucoup de gens ici qui sont chrétiens depuis plus longtemps que je suis vivant sur cette terre. Mais j'ai un message vraiment simple en fait ce matin, c'est lisez ce livre. Il est vraiment bien. Il est plus que vraiment bien. Si vous voulez connaître Dieu, il parle Fils. Si vous voulez connaître le Fils, lisez ce livre. Dévorez-le. Dévorez-le, mastiquez-le, étudiez-le. Étudiez-le et vous allez connaître qui Dieu est. Mais ça, c'est une première phase de la connaissance de Dieu. On est comme ça, en fait. Ça commence souvent avec ce qui se trouve là, juste derrière nos yeux, à l'intérieur de notre crâne. On appelle ça notre cerveau. C'est une créature de Dieu merveilleuse et qui est là et il faut qu'on s'en serve. Et elle est là pour qu'on puisse connaître des choses qui sont vraies sur Dieu. Et c'est quelque chose... Ce n'est pas suffisant, il y aura deux autres phases qu'on va voir ensuite sur la connaissance de Dieu, mais c'est une super première phase. Au jour de l'épreuve, lorsque vos émotions n'y sont pas, au jour où vous broyez du noir, au jour où rien ne semble vrai devant vous, rien ne semble avoir de sens ou de cohérence, ce que vous savez sur Dieu, parce que vous le savez, parce que vous le savez, parce que vous le savez, c'est ça qui va vous soutenir. De chanter les paroles qu'on a chantées ce matin. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois au Saint-Esprit. Il est la Trinité divine. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'on vivra à jamais parce que j'ai cru dans le nom de Jésus. Ces paroles-là sont absolument vérité et vie pour nous. Elles sont super puissantes parce qu'elles nous tiennent au jour où tout semble crier et hurler le contraire dans notre vie. Je sais que le monde semble crier le contraire. Mais oui, je crois. J'ai regardé une vidéo, c'était en décembre, il y a presque 2 ans maintenant, une vidéo qui m'a extrêmement touché. C'était après un massacre dans une église copte en Égypte. Et j'ai regardé une vidéo d'un énorme rassemblement de chrétiens coptes devant l'église. Et je voyais ces gars, en fait, c'était que des gars dans la vidéo qui étaient en train de crier, de crier, de crier « Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et de son Fils Jésus-Christ. Il est né de la Vierge Marie, il est mort au tombeau sous Ponce Pilate, il est ressuscité le troisième jour, il reviendra juger les vivants et les morts. » Ils récitaient, ils hurlaient, ils scandaient le symbole de Nicée. Et j'étais là, j'ai jamais trouvé que les credos étaient super intéressants. Là, ils sont intéressants. Pour des gens dont leur communauté vient de se faire massacrer, de savoir, ok, j'ai plus aucune certitude sur quoi que ce soit d'autre, mais ça, je le crois. Ça, c'est ma base, ça, c'est mon fondement, et ça commence avec ça. Nous connaissons Dieu parce que nous savons des choses vraies sur qui il est à travers le Fils révélé dans la parole. Ça, c'est une première phase. Même, j'ai envie de vous mettre au défi, étudier la théologie. C'est super bon. C'est extrêmement bon de prendre des fondements et de les ancrer profondément dans notre cœur. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a plus. Il y a une deuxième phase. Je pourrais vous dire toute une description absolument scientifiquement parfaite de ce que c'est qu'une tomate. Sa forme exacte et précise, la couleur, comment elle rentre sur la gamme des couleurs. Je pourrais vous décrire le goût d'une tomate. Je pourrais vous décrire la sensation lisse de la tomate dans ma main. Je pourrais vous dire son taux de pH, décrire un goût un petit peu sucré, un petit peu... Voilà, c'est, et y a des pépins à l'intérieur, c'est juteux à l'intérieur, mais plus liquide à l'intérieur. Je pourrais vous raconter tout ce qui est vrai sur une tomate. Vous n'auriez aucune idée à quoi ressemble une tomate jusqu'à ce que vous l'ayez goûtée. Et ça, c'est vrai de Dieu aussi. Et ça, c'est vrai de Dieu aussi. Nous le connaissons à travers son Fils, et le Fils est révélé dans la parole. Mais nous ne le connaissons pas vraiment jusqu'à ce que nous l'ayons expérimenté de nous-mêmes. Et on l'expérimente de tellement de façons différentes. Je pense qu'une des façons principales à travers on le fait, parce que ça appelle beaucoup à nos émotions, à notre ressenti, à notre expérience, c'est ce qu'on vient de vivre. C'est le temps de louange chanté quand le peuple de Dieu est rassemblé. Il y a une expérience tangible de la présence de Dieu qui est là. Mais moi, je le vis aussi en discutant avec des gens. Hier soir, David et moi, on mangeait ensemble. Moi, j'expérimentais la présence de Dieu, j'expérimentais Dieu à travers mon frère là-dedans. Et il y a tellement de façons d'expérimenter la présence de Dieu. Quand les uns et les autres prophétisent, il y a l'expérience de la présence de Dieu. Mais j'aimerais aussi dire une chose. La présence de Dieu, on l'expérimente en lisant ce livre. On peut gâcher l'expérience de la Bible si on ne la lit que pour accumuler des faits sur Dieu, des réalités théologiques, des vérités sur Dieu. Ces choses-là sont essentielles et bonnes. Mais si on ne la lit que pour accumuler le nombre de connaissances dures sur Dieu, on passe à côté de quelque chose. Il y a une expérience à vivre en ouvrant la parole de Dieu. Il y a une expérience à vivre de dire quand ce matin, quand je me lève et je vais prendre du temps à juste me mettre dans la parole, je m'attends à ce que mes émotions soient réveillées, je m'attends à ce que j'expérimente la vérité vraie de Dieu qui me parle. Quelle gloire, mais quel cadeau! Quel cadeau que Dieu nous ait parlé! Et parfois, on peut voir la lecture de la Bible comme une sorte de c'est la corvée chrétienne, quoi. Hein, quand tu es un enfant, la corvée, c'est faire la vaisselle. Quand tu es un chrétien, la corvée, c'est lire la Bible. Mais il faut bien qu'on le fasse parce que c'est important. Non! C'est pas une corvée. C'est vérité et vie. C'est la présence de Dieu à travers sa parole même. Il est le Dieu de l'univers a accepté de parler notre langage. C'est dingue. Quelle gloire, quel honneur, quel privilège de pouvoir ouvrir les pages d'un livre qu'il a bien voulu nous révéler, que le Dieu de l'univers qui est transcendant, qui est au-dessus de toute chose, a accepté, a eu la condescendance et la grâce l'amour pour nous de dire je vais accepter d'être décrit par des mots humains. Le Dieu indescriptible a accepté que notre langage à nous soit utilisé par lui pour dire la vérité sur lui. Mais ce n'est pas n'importe quel livre. Il y a une gloire, il y a une expérience à vivre en ouvrant la parole de Dieu et en se plongeant dedans. Et moi, je suis un des premiers à dire qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Et pourtant, Dieu lui-même s'est mis dans une boîte. Il a accepté d'être défini par les paroles de ce livre. C'est incroyable. C'est incroyable. Et forcément, il va toujours sortir de la boîte sans jamais contredire la boîte en plus. C'est ça qui est absolument incroyable. Il sort de la boîte sans la contredire. C'est le seul qui peut faire ça. C'est le seul qui peut créer quelque chose de parfait et après faire encore mieux que le parfait. Le plus que parfait, c'est Dieu qui l'a inventé. Et ce livre, c'est une expérience. Mais il y a encore autre chose. Dans la compréhension hébraïque de la connaissance, on ne connaît quelqu'un réellement que jusque l'on l'ait aimé et qu'on se soit laissé aimer par lui. La sexualité, dans le langage hébraïque, est définie par le fait de connaître quelqu'un. Adam connut Ève. Et Dieu définit la connaissance de cette façon-là. Est-ce que tu m'aimes ? Et est-ce que tu es prêt à te laisser aimer par moi ? Ça, c'est une connaissance de Dieu à laquelle nous sommes appelés. Dans le contexte de l'alliance que Dieu a tissée en Christ, que nous sommes appelés à nous laisser aimer par lui en premier et à l'aimer en retour. Quel rapport avec la Bible ? Le rapport avec la Bible, je le tire en fait du livre « Les cinq langages de l'amour ». Est-ce que vous avez lu ce livre ? Qui a lu le livre « Les cinq langages de l'amour » ? C'est un livre vraiment excellent, que vous soyez marié ou pas marié, c'est un livre vraiment bon à lire, qui explique qu'on expérimente l'amour de façon différente et on donne l'amour de façon différente selon les personnes. Moi, je suis, en termes d'amour, touché physique et parole d'affirmation. Et mon épouse, c'est acte de service et ensuite temps de qualité. Et il faut que je le sache, parce qu'il faut que je sache si vraiment Rebecca veut savoir, si vraiment je veux faire comprendre à Rebecca que je l'aime, ça ne va pas être de lui dire que je l'aime ou de lui dire que je la trouve belle. Je le fais quand même parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est mon langage à moi, donc je vais quand même l'utiliser. Mais pour qu'elle, elle le comprenne, j'ai besoin de lui faire une tasse de thé. J'ai besoin de faire la vaisselle sans qu'elle me le demande. J'ai besoin de sortir le linge sale, de le plier, de le ranger. Et là, elle sait, elle sent. Oh, mon mari, il m'aime. Ça ne me vient pas naturellement, les amis. Ça ne me vient pas naturellement et j'ai encore beaucoup de progrès. Mais la question qu'on doit se poser, c'est quel est le langage de l'amour de Dieu ? Quel est le langage de l'amour de Jésus ? Et Gary Chapman, c'est un gars super, il a écrit le bouquin « Les cinq langages de l'amour », mais il en a oublié un, il a oublié celui de Jésus. Dans Jean, à partir du chapitre 13, Jésus prend un dernier repas avec ses disciples. Il prend un dernier repas avec ses disciples et puis c'est rempli de... Enfin, tout le thème en fait, de son dernier repas, son temps privilégié avec eux, c'est en fait comment vraiment connaître Dieu. Et il dit, Philippe, il dit, mais révèle-nous le Père. Et il dit, mais vous m'avez vu moi, vous avez vu le Père. Si vous voulez connaître le Père, bah, connaissez-moi et ça vous suffit. Et voilà comment connaître Dieu. Et je suis la vigne et vous êtes les serments, demeurez en moi, etc. Et au milieu de ce passage, il donne la clé pour comment vraiment connaître Dieu parce qu'il nous donne son langage de l'amour. Et il y a des gens, par exemple, Jean, dans l'histoire, on voit que Jean prend sa tête et il la pose sur le torse de Jésus. Lui, son langage de l'amour, c'est le toucher physique. C'est évident. Une autre personne qui va dire, mais Jésus, j'ai tout donné, j'ai tout abandonné pour toi, j'ai tout laissé, le sacrifice que je t'offre, c'est ma vie toute entière. Pour lui, ça va être le cadeau. Il y a une autre personne qui va dire, mais Jésus, ce temps de qualité avec toi, c'est génial, juste les 12 et toi ensemble, c'est vraiment génial de pouvoir prendre ce temps privilégié. Pour eux, c'est le temps de qualité. Il y en a une autre personne qui va être là en train de dire un peu comme moi, « Oh Jésus, tu es merveilleux, tu es beau, tu es mon tout, tu es mon rien, tu es mon soleil, tu es le matin, tu es le soir, tu es mon bouclier, ma forteresse, ma gloire et mon rocher. Jésus, je t'aime, qu'est-ce que tu es beau, Seigneur ?» C'est les paroles d'affirmation. Il y a une autre personne qui va dire, « Oh Jésus, c'est super que tu sois là. Bah, écoute, je vais prendre une bassine, je vais laver. » Ah non, c'est toi qui as déjà lavé les pieds. Bah, c'est pas grave, je vais prendre une serviette et c'est moi qui vais sécher les pieds. Et puis, bah, il y a la bassine d'eau sale et puis il faut que je la sorte et je la vide dehors. Super, est-ce qu'on a besoin de plus de vin à table ? Ok, on va prendre du vin et c'est les actes de service. Et on a tous des façons différentes d'exprimer l'amour envers Jésus. Et Jésus va dire, « Toutes ces choses-là, je les aime. » Qu'est-ce que j'aime votre offrande ? Qu'est-ce que j'aime votre générosité ? Qu'est-ce que j'aime vos paroles de louange ? Qu'est-ce que j'aime les actes de service que vous faites pour moi ? Mais j'ai un autre langage de l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, c'est un sixième langage de l'amour, c'est celui de Jésus. Si vous m'aimez, en gros, pour paraphraser, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Ah ouais ! Ah, donc il y a un sixième langage de l'amour et ça c'est à nouveau dans la Bible qu'on peut apprendre à lire. Et donc c'est cette dernière phase de connaître Dieu c'est de savoir des choses vraies sur lui. C'est de l'expérimenter. Et ensuite, c'est de lui obéir. Et j'apprends de plus en plus à ouvrir ma Bible et dire à Jésus, quels sont tes commandements ? Qu'est-ce que tu as envie que je fasse ? Et en pensant à tout ça, je suis revenu encore et encore et encore et encore au personnage de Pierre. Pierre, c'est un sacré personnage quand même. Si vous avez lu les évangiles, c'est quelqu'un, il parle plus vite que son ombre, il parle longtemps avant d'avoir réfléchi à ce qu'il avait à dire. Il fait des gaffes sur gaffes sur gaffes. Il est assez exceptionnel, mais pour une raison ou pour une autre, Jésus, il dit, mais toi, il y a un truc particulier chez toi. Et je vais bâtir mon église et tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir cette église et les portes de la mort et du séjour des morts ne tiendront pas contre toi. Et puis il y en a trois qui viennent, il y a Pierre, il y a Jacques et il y a Jean. Pierre, viens avec moi. Mais pourquoi est-ce qu'il choisit Pierre? Il fait tout le temps des bêtises. Il y a la montagne de la transfiguration, Jésus qui apparaît dans la gloire, son et lumière, feu d'artifice spirituel devant les disciples. Et Pierre, le seul truc qu'il trouve à dire, c'est « Oh, c'est bon qu'on soit là, comme ça on peut faire des tentes et on peut s'installer. » Mais Pierre, ce n'est pas ce que je te demande. Et pourquoi est-ce que Jésus semble être tellement attaché à prendre ce gars et à bâtir avec lui et à faire de lui le premier parmi les 12 en quelque sorte, les 12 qui sont absolument égaux en autorité, mais il y a Pierre qui est un leader parmi eux. Pourquoi lui, Jésus ? J'ai l'impression que c'est parce que Pierre avait compris cette notion de « si tu m'aimes, fais ce que je te dis ». Pierre avait compris le langage de l'amour de Jésus. Et je suis mis au défi par lui. On va prendre juste quelques versets bibliques et je vais essayer d'aller très rapidement sur ces versets, mais qu'on capture un petit peu de... qu'on comprenne un petit peu certaines des choses que Pierre avait comprises. Luc 5, verset 4. Quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon-Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Autrement dit, Jésus est en train de dire, « Pierre, est-ce que tu as envie de vivre quelque chose de plus profond avec moi ? Est-ce que tu as envie de sortir de ta zone de confort ? Est-ce que tu ne veux pas juste aller un petit peu en eau plus profonde ? Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on veut aller en eau plus profonde ? Et si oui, poussons, poussons, poussons. Et Jésus lui dit, tu vois tes filets ? Eh bien, jette-les de l'autre côté. Et là, Pierre, il aurait pu juste dire, ok, tu es le Seigneur de l'univers, mais je voulais juste dire une chose. Toi, charpentier, moi, marin pêcheur. Moi, pêcher toute la nuit et rien prendre. Moi, avoir lavé les filets. Moi, connaître cette rivière mieux que ma poche. Et aujourd'hui, moi, pas jeter les filets de l'autre côté. Par contre, si tu me dis comment faire de la charpenterie, je t'écouterai. Il aurait pu lui dire ça. Et Pierre, il lui dit, maître, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. On connaît les méthodes. On connaît les techniques. Okay, je sais de quel côté pêcher, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ça, c'est l'obéissance. Ça, c'est si tu m'aimes, garde mes commandements. Pierre avait compris ça. Matthieu 14, on est encore sur le lac. J'ai l'impression que Pierre et le lac, il y a une relation là qui est forte. Et aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. C'est le culte personnel de Jésus. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Je ne sais pas si ça vous arrive de sortir de votre temps de culte personnel et de vous dire, allez, je vais aller marcher sur un lac. Normal. J'ai passé du temps avec le Père. « Je suis prêt à affronter le monde. » Et quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Pierre demande à Jésus de lui donner un commandement. Je ne sais pas combien de fois j'ouvre ma Bible en disant à Dieu, « Seigneur, donne-moi un commandement ce matin. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dis-moi ce que tu as sur le cœur. Dis-moi quoi faire. J'ai envie de t'obéir. Moi, souvent, j'ouvre ma Bible en disant, Seigneur, si tu veux juste m'encourager un petit peu ce matin, lever mon esprit, me faire que je me sente mieux après, pas trop me mettre au défi, s'il te plaît. Pierre est quelqu'un qui a un cœur qui va rechercher de l'instruction. Il sait tellement que Jésus est le Seigneur qu'il lui dit, s'il te plaît, Seigneur, parle. Donne-moi une instruction, j'ai envie de t'obéir, donne-moi un truc à obéir, s'il te plaît. Et pas seulement ça, il a une telle confiance en Jésus qu'il dit au Seigneur, si tu es le Seigneur, si tu es vraiment Jésus, demande-moi de faire un truc impossible. Et je sais que si c'est toi qui me le demandes, alors ça va absolument être possible. C'est incroyable comme la foi de ce gars, d'être quelqu'un qui va dire, j'ai envie que tu me dise quoi faire, j'ai envie que tu m'instruises, j'ai envie que tu me donnes des nouveaux commandements. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais Pierre, tout brut de décoffrage qu'il était, avait en fait un vrai cœur soumis à Dieu. Un vrai cœur qui dit, quand je prends la parole, Seigneur, donne-moi un nouveau commandement. Et si tu me donnes ce commandement, il peut sembler impossible, mais si c'est toi qui me donnes ce commandement, je sais que tu vas donner tout ce qu'il faut, qui est nécessaire, pour que ça s'accomplisse. Juste donner un dernier passage, parce que je crois que, et c'est sur ça que je vais finir, il y aurait d'autres choses, on voit ça souvent chez Pierre en fait. Il arrive au tombeau, Jean arrive en premier, parce que Pierre avait trop mangé de pizza la veille, et donc Pierre est un petit peu derrière, mais Jean il attend au bord du tombeau et Pierre il rentre. Il y a un truc chez ce gars, et tout ça, ça a commencé avec la façon dont il est né en tant que chrétien. On va lire le passage ensemble. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 18. « Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetait un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivèrent. » Je vous avoue que ce n'est pas comme ça que je suis devenu chrétien. Quelqu'un, un jour, m'a invité à accepter Jésus dans mon cœur et à faire une prière. Et je l'ai fait. Il m'a dit, ok, super, tu auras la vie éternelle. J'ai dit, génial, merci. Et sans que ce soit faux théologiquement, c'est tellement incomplet. C'est tellement incomplet. On m'a demandé de faire une place pour Jésus dans mon cœur à côté de toutes mes autres idoles. Je l'ai accepté dans ton cœur. Et on m'a dit, et si tu le fais, tu auras une bonne récompense. Jésus, il dit complètement l'inverse, en fait. Il dit, ok, je veux être ton Seigneur. Est-ce que tu es ok? Fais ce que je te dis, suis-moi. Ah, et au fait, je te promets des galères. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jusqu'ici, tu avais juste à gérer des poissons, en plus des poissons morts. C'est pas compliqué la vie. Hein. Maintenant, aujourd'hui, tu vas devoir gérer de l'humain. Ça va être compliqué pour toi à partir de maintenant. Est-ce que tu es prêt? Pierre, il regarde, il dit, j'ai un bateau, j'ai un business, j'ai une famille, j'ai une maison. Ma belle-mère habite à la maison. Ah, c'est peut-être une bonne raison d'aller suivre Jésus, ça d'ailleurs. il faut vraiment que je compte le coup, en fait. Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? Est-ce que je suis prêt à ce qu'il soit mon Seigneur? Est-ce que je suis prêt à le laisser lui déterminer ce qu'il fait avec ma vie? Je crois que ouais. Allez. Et il est rentré dans la vie avec Jésus. Et cette naissance chrétienne l'a conduit à avoir ce genre d'attitude le reste de sa vie. Je ne dis pas qu'il a été sans faute. Il a quand même renié Jésus juste avant que Jésus se fasse crucifier pour lui, quoi. Il n'a pas tout compris, Pierre. Mais il y avait quelque chose chez lui qui, et c'est tellement, je pense, important qu'on se laisse mettre au défi par ça ce matin. Pierre, il va dire ça sur Jésus. Alors que Jésus, tout le monde vient de quitter Jésus. Et Jésus, il dit, et vous aussi les douze, vous n'avez pas envie de partir? Pierre, il dit, mais vers qui d'autre irions-nous? Je veux dire, oui, ça n'a pas l'air rempli de succès. Ce n'est pas une super stratégie pour faire une méga church, hein, de faire partir tous les gens en disant des choses offensantes et en nous encourageant même nous les 12 à partir après, mais vers qui d'autre est-ce que j'irai? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et je crois qu'il y a un défi ici pour ceux qui sont déjà en Christ et ceux qui ne le sont pas. Si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, suivez-le. Suivez-le. Prenez la Bible. Dites, Dieu, j'ai envie de te connaître. Je sais que tu parles Fils. Révèle-moi le Fils et je connaîtrai le Père. Faites ce pas ce matin. Je ne vais pas vous promettre la facilité. Il va vous demander des choses super dures. Il va vous demander de faire des pas de foi aussi difficiles que de marcher sur de l'eau. Peut-être même vous demander d'implanter une église, tiens. Oh là là, quand Jésus nous a dit ça avec Rebecca, on était là, ok, bon bah tu nous le dis, donc oui, mais on n'a aucune idée comment on va le faire. Hein. Ce qui est fou, c'est que depuis, Jésus a pourvu un boulot, il a pourvu une équipe, il a pourvu une stratégie, on n'a même pas commencé. Et il a tout pourvu, quoi. On est en train de marcher sur l'eau et c'est fou que l'eau tienne sous nos pieds. C'est absolument dingue. Et Jésus ne vous promet pas la facilité, mais il vous dit suivez-moi. Peut-être que ça, c'est un pas que vous avez envie de prendre ce matin. Peut-être qu'il y a l'aigle que Véronique a vu qui est là et vous voyez comme du feu dans ses yeux et qui vous dit tu sais quoi, j'ai envie de te promettre une aventure. Il va falloir que tu t'accroches à mes ailes parce qu'on va aller vite et on va aller loin et on va aller haut. Mais est-ce que tu es prêt à me suivre aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à monter sur mon dos? Parce que l'aigle commence à battre des ailes. Et peut-être que vous allez suivre Jésus pour la première fois ce matin et vous allez dire, ouais, je sais que c'est un défi, mais je suis prêt à le prendre. Je suis prêt à l'accepter. Peut-être que pour d'autres personnes, vous vous rendez compte que dans votre vie chrétienne, vous avez commencé à devenir un petit peu passif. Laissez Pierre vous mettre au défi. De dire, quand je prends la Bible, ça va être « Seigneur, dis-moi ce que tu demandes de moi. Donne-moi un nouveau commandement. Comment est-ce que je peux te suivre? J'ai envie de parler ton langage de l'amour. J'ai envie de t'aimer sur tes termes et pas sur les miens. J'ai envie d'être ton ami parce que tu promets que je serai ton ami et pas un esclave et pas un serviteur. Et j'ai envie d'être un ami qui parle le langage de l'amour de Jésus. Waouh, est-ce que je peux faire ce que tu me dis? Dis-moi quelque chose. Sortez de la passivité en tant que chrétien. » Et donc il y a un énorme défi dans ces deux choses. Mais il y a aussi peut-être des personnes qui sont ici, et je crois qu'il y en a à cause des paroles prophétiques qui sont venues, où pour vous, ça vous fait vraiment peur. Ça vous fait vraiment peur, parce que vous êtes comme un cœur qui a une couronne d'épines autour. Vous avez connu la religion. Vous avez connu la religiosité. Vous avez connu, si tu ne fais pas mes commandements, je ne t'aimerai pas. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit « je vous aimerai si vous faites mes commandements ». Il a juste dit « si vous m'aimez, faites mes commandements ». Mais moi, je vous aime, peu importe. Moi, je suis pour vous, peu importe. La grâce de Dieu, elle est là et elle est déversée. Et elle n'est pas conditionnelle à votre obéissance. C'est extraordinaire, la grâce de Dieu qui est là ce matin et qui est disponible. Et peut-être que vous, ce matin, vous avez juste envie de dire « je ne suis pas encore prêt à t'entendre, Jésus ». Me dire « suis-moi ». Mais au moins, je suis prêt à ce que tu t'approches de la barque. Jusqu'ici, je te tenais à distance respectable, je te tenais à distance stable, sécure. Je ne suis pas en sécurité tant que toi, tu te rapproches trop de ma barque, Seigneur. Et vous êtes là dans votre bateau ce matin. Et Jésus, il a envie de se rapprocher du bateau. Il a envie de se rapprocher du bateau dans la douceur. Et il a envie de vous dire « peu importe votre réponse, peut-être que vous n'allez pas répondre ce matin. Mais est-ce que tu sais déjà que je t'aime? Est-ce que tu sais déjà que je suis pour toi? Est-ce que tu sais déjà que j'ai des projets pour toi? Que ouais, les projets, ça peut être des projets comme naviguer sur un aigle. Mais ce matin, avant tout, je veux te prendre dans mes ailes. Ce matin, avant tout, je veux te couvrir. Je veux être là sur toi. Peut-être qu'il y a une... On a parlé d'un couteau qui a été mis dans une plaie qui ne guérit pas. Avant d'emmener les brebis dans les verts pâturages, il va commencer dans l'enclos à les guérir. N'ayez pas peur. Il ne va pas vous forcer à aller prendre de l'herbe fraîche de l'autre côté de la plaine quand vous avez encore la jambe qui boite. C'est notre Seigneur, mais c'est notre Sauveur. C'est notre Roi et c'est notre ami. Si vous avez peur de Jésus ce matin, laissez-le simplement vous dire « mon fardeau est léger et mon cœur est doux ». Et je vous demande de me suivre. mais je n'irai pas plus vite que ce que vous pouvez le faire. C'est moi qui détermine la marche, le rythme et le tempo. Et faites-moi confiance. Est-ce que peut-être pour la première fois, vous êtes juste prêt à dire à Jésus, j'ai été tellement blessé, mais ce matin au moins, j'accepte que Jésus se rapproche. J'accepte qu'il soit là. Peut-être que l'image de l'avion qui est trop chargée, vous êtes trop encombré pour suivre Jésus, en fait. Trop encombré pour le suivre. Trop de trucs, peut-être une entreprise, peut-être des relations, peut-être des possessions, peut-être des envies de possession, peut-être une obnubilation avec les possessions. Est-ce que ce matin, vous pouvez laisser Jésus vous dire, ok, décharge-toi de ça, laisse ton bateau, viens et suis-moi. Peut-être que pour vous, c'est une addiction, comme ça a été partagé aussi. À nouveau, Jésus est puissant pour guérir ce matin. Jésus est puissant pour vous libérer ce matin. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on puisse prendre peut-être un dernier chant, mais qu'avant ce chant, peut-être si le groupe peut revenir, et qu'avant qu'on se mette à chanter, que ceux qui ont envie de prendre une étape avec Jésus ce matin puissent s'avancer. Je ne sais pas si vous faites ça souvent ici ou pas, mais je trouverais ça génial que ce matin, alors que Jésus est en train de nous dire « Suis-moi », qu'on puisse avec nos pieds faire une action. Prendre nos pieds et venir pour dire « Jésus, j'ai envie de te suivre ». Si vous voulez le suivre pour la première fois, alors avancez-vous. Si vous voulez dire « J'ai commencé à être passif, aujourd'hui je redeviens actif », alors avancez-vous. Si vous avez envie de dire « Seigneur, il y a des choses qu'il faut que je laisse de côté », alors avancez-vous. Et si ce matin vous avez dire avec crainte et tremblement, avec un pincement au cœur parce que je ne suis pas 100% sûr que Jésus est un Dieu de sécurité, mais j'accepte quand même de lui faire confiance, j'accepte quand même qu'il se rapproche de mon bateau, de ma barque ce matin, alors rapprochez-vous. Donc peut-être qu'on peut commencer à chanter et alors qu'on chante, les uns et les autres peuvent se rapprocher. Et puis on prendra un petit temps de prière avant de repasser la main à Farid. Donc simplement excusez-vous si vous avez besoin de passer dans les rangs, pardon, et puis venez devant faire cette démarche avec Jésus. Merci Seigneur. Qui crée
toi, Abba.
Merci Seigneur, merci Jésus. Et je sens encore, il y a peut-être une ou deux personnes, vous hésitez à venir. Et juste ce matin, j'ai ce mot tracé une ligne dans le sable. C'est comme si vous étiez dans la barque et il vous dit maintenant saute de la barque, descends sur le sable et trace une ligne avec ton doigt dans le sable. Et dit à partir d'aujourd'hui, je suis Jésus. À partir d'aujourd'hui, je deviens pas seulement un chrétien le dimanche, mais je deviens un disciple de Jésus, et je vais moi-même apprendre à être un pêcheur d'hommes, et je veux moi aussi faire d'autres disciples qui eux aussi feront d'autres disciples de ce même Jésus. Simplement avancez-vous encore. Mais merci Seigneur, merci Jésus pour la réponse à l'évangile. Et Jésus, je veux te remercier peut-être si vous êtes là et que vous voulez donner votre vie à Jésus pour la première fois. C'est le plus beau jour de votre vie. C'est le plus beau jour de votre vie. Parce qu'il est là et il devient votre sauveur et il se trouve que le roi est bon. Il se trouve que vous venez de devenir citoyen du royaume absolument incroyable de notre Père. Que vous venez de devenir enfant de celui qui est le roi du monde. Et donc simplement parlez-lui. Je vais juste dire une prière et c'est peut-être la première prière que vous allez dire à votre Père le roi. Juste dire « Papa, j'ai le droit de t'appeler papa. J'ai le droit de t'appeler papa. Tu es le roi de l'univers. Et aujourd'hui, pour la première fois, sois le roi de mon cœur. Sois le roi de mon cœur. Prends tout. Je te le cède. Je te le concède. Et je te l'accorde parce que je vois que tu en es digne. Et je veux te suivre. Et je veux marcher dans tes pas. Je me repens de toutes mes voies de rébellion contre toi. Je me repens de mes fautes et je te remercie parce que tu as tout pris pour moi en mourant à ma place. Et maintenant, je te demande de me conduire dans la vie de résurrection que tu as aussi gagnée pour moi. Merci, Père. Et merci Jésus. Et merci Saint-Esprit de m'avoir attiré à toi ce matin. Merci Seigneur. Amen. Ça, c'est une belle prière, ça. Et je veux juste, on pourra sans doute clôturer après, j'imagine, parce qu'il est l'heure. Mais si les gens veulent rester et prier ensuite derrière, j'aimerais juste dire une prière. Et prier pour vous si vous êtes avancés. Et ensuite, on pourra avoir des gens qui pourront venir vers vous individuellement et prier avec vous individuellement. Mais de façon plus générale, merci Seigneur parce que tu es le Seigneur. Merci parce que tu es le roi. Et ce matin, nous décidons à nouveau de te suivre. Nous décidons à nouveau de dire, ordonne-moi Jésus. Ordonne-moi de marcher sur l'eau. Si tu es le Seigneur, si c'est vraiment toi, alors ordonne-moi et je sortirai du bateau. Et je sortirai du bateau. Seigneur, nous voulons être de ceux qui font ce que tu nous demandes et qui recherchent ce que tu nous demandes. Pas parce que nous pensons que nous allons être plus acceptés par toi en le faisant, mais parce que nous savons que nous avons déjà été pleinement acceptés par toi et que donc nous pouvons le faire. Jésus, viens prendre nos vies tout entières. Nous te concédons tout. Nous te concédons nos addictions. Nos addictions au travail, nos addictions à la drogue, nos addictions à la pornographie, nos addictions à l'acceptation et le regard des autres, notre acceptation au montant présent dans notre compte bancaire à la fin du mois et à notre obnubilation par ça. Nous te concédons ces addictions et nous te disons, Seigneur, tu nous changes. Saint-Esprit, tu nous changes. Et Seigneur, viens guérir les cœurs brisés ce matin. Viens guérir les cœurs brisés. Prends le baume de ton esprit, le baume de ta douceur et de ta croix et viens laver, laver, laver. Là où nos cœurs sont ensanglantés par des paroles qui ont été prononcées contre nous, ou des choses qui ont été dites sur nous dans notre dos, ou des attitudes qui ont été présentes envers nous, ou par des mensonges que nous avons crus sur nous-mêmes, par des actes qui ont été commis contre nous, ou par des actes que nous avons commis que d'autres ne nous, pour lesquels d'autres ne nous ont jamais pardonné, et qu'on ressent encore le poids de la culpabilité que eux font peser sur nous. Seigneur, pour toutes ces blessures dans nos cœurs, viens nous laver maintenant, Saint-Esprit. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Et merci parce que tu nous appelles à ta suite. On t'en demande la force dans ton nom et par ton esprit. Amen.